Alors pour moi, le design, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, et c'est quelque chose dont je me suis emparé, et qui me sert très souvent, pas que dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, c'est une capacité à se questionner, quelque part à toujours être dans le challenge de, OK, on a fait ça comme ça, la fois passée, ça s'est plutôt pas mal, déroulé, ou au contraire, ça s'est pas bien passé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Être sans cesse dans le questionnement de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur, pour délivrer de la valeur.
Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Jérémy. Son interview entière d'une durée de 1h36 est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner? Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Jérémy et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Jérémy Cohen. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ?
Bonjour Laurent, bah écoute, impeccable, confiné à la maison, mais en pleine forme, et puis ravi de passer ce moment-là avec toi aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît ?
Donc moi, je suis UX designer freelance. Ça fait 4 ans que je me suis lancé, et auparavant, j'ai baroudé dans des grandes entreprises, dans le domaine du digital, de manière large. Donc, j'ai commencé en étant webmaster à l'époque où il y avait un seul rôle qui s'occupait dans les organisations du front-end, du back-end, de l'ergonomie et autres.
D'accord.
Et puis, petit à petit, je me suis spécialisé au fur et à mesure que des nouveaux rôles sont apparus. Et en étant chef de projet fonctionnel et puis après manager d'une équipe full stack. Et donc tout ça dans des grandes organisations, donc à chaque fois avec des gens à convaincre, des réticences ou en tout cas des gens à embarquer et des cultures à intégrer. Et donc plus récemment, une volonté de me spécialiser là-dedans par rapport aux choses que moi j'avais pu expérimenter et envie aussi de diversifier les domaines et les dossiers sur lesquels je pouvais travailler, donc envie de partir en freelance. Donc ça c'est pour une première casquette qui m'occupe la moitié de mon temps.
D'accord.
L'autre moitié, je consacre à la pédagogie de manière large. Donc, ça peut être de la formation, mais aussi de l'enseignement. Et plus récemment, j'ai intégré l'ISD à Valenciennes, donc c'est l'Institut supérieur du design, où on a lancé un master alors design d'interaction ou UX design. Donc, c'est une formation en 2 ans et qu'on monte de toutes pièces. Et donc, je suis référent pédagogique de cette filière.
Ah,
et
super.
Donc, j'ai l'opportunité et la chance du coup de pouvoir reconstruire le programme en lien avec le staff, mais du coup de pouvoir suggérer des orientations, trouver les intervenants et interagir avec des étudiants qui sont hyper motivés. Donc, c'est passionnant. Donc, voilà, ça m'occupe une autre partie de mon temps, la deuxième moitié.
D'accord.
Donc, voilà, il y a deux pieds. En fait, un pied sur le terrain avec l'activité de freelance et l'autre pied dans la pédagogie.
D'accord, génial. Et donc, le master, il a débuté cette année, c'est ça?
Il a débuté l'an passé. Ah. Et donc, on a le premier batch là, qui va être diplômé en 2021. Ça a commencé en passé. Donc, pour l'instant, c'est sur 2 ans. Peut-être qu'à un moment donné, ça remontera un petit peu la filière et on pourra directement intégrer un bachelor avant le master. Mais donc, pour l'instant, c'est sur 2 ans et ça a commencé l'an passé.
D'accord, très bien. Et donc, une autre question, pourquoi es-tu devenu designer ou pourquoi as-tu choisi ce métier?
Alors, j'y suis venu, en fait, j'étais dans la position de mes clients. C'est-à-dire que moi, j'étais salarié dans une entreprise et je pilotais des roadmaps, projets. C'est par moi que passaient les priorisations des features qu'on allait mettre en place, intégrer dans les applications mobiles ou dans le site web de la marque. Et donc, j'étais régulièrement en contact avec la direction, le service client, la communication, le marketing, etc., qui régulièrement venaient me voir ou intégrer dans les comités et me disaient, bon voilà, il faudrait qu'on fasse évoluer cette partie-là ou il faudrait qu'on intègre des nouvelles fonctionnalités. Et à chaque fois, le prisme, en fait, c'était est-ce que c'est important pour le client ou le client, aujourd'hui, il a des difficultés là-dessus, il faut absolument qu'on résolve ça. Donc, il y avait aussi bien dans le build and run, le build c'était vraiment la partie projet et puis le run la partie corrective. Mais à chaque fois l'argument c'était il faut faire ça pour le client quoi. Moi j'avais du mal à prioriser les choses parce que tout était important, tout le monde mettait le client en avant et donc quelque part j'avais vraiment ce problème de donner du sens à mes équipes, stabiliser un peu le périmètre. Savoir qu'est-ce qui était plus prioritaire en fait qu'un autre. Jusque-là, c'était soit celui qui avait plus de galons ou celui qui passait plus de temps dans mon bureau. Enfin bref, c'était des choses qui étaient complètement, à mon sens, triviales et j'avais un vrai problème avec ça. Et ça, je voyais que ça avait des répercussions aussi sur la motivation des équipes. Enfin bref, c'était un vrai problème. Et donc, comme j'avais la chance d'être dans un grand groupe, j'ai pu me rapprocher d'autres entreprises qui étaient dans ce même groupe et qui avaient, à mon sens, déjà intégrer un peu mieux le client au centre de leur processus. Donc, c'est par des échanges que j'ai découvert qu'il y avait des métiers et des outils et des méthodologies dont c'était le rôle, en fait, quelque part, de replacer et reconnecter les entreprises avec leurs utilisateurs. J'ai découvert l'UX, le design thinking et toute l'approche vraiment design, parce que moi, je ne suis pas designer de formation. Pour moi, le designer, c'était la personne qu'on faisait intervenir à la fin du projet pour faire les trucs jolis. Mais ça, c'est un constat que j'ai pu faire dans toutes les entreprises dans lesquelles j'étais passé. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était loin d'être aussi simple que ça. J'ai pu expérimenter un certain nombre de choses en tant que commanditaire. D'ailleurs, moi, j'ai fait venir des facilitateurs pour nos premiers workshops. On a eu à recruter des UX designers. On a fait nos premiers ateliers en mode design thinking, etc. Donc, quelque part, j'ai pu un peu goûter à ces éléments-là. Et pour moi, c'était une vraie révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ça répond à plein de points de peine que moi, j'avais quand j'étais chef de projet ou quand moi, je suis maintenant manager. C'était des réponses à toutes les questions que je me posais de comment on fait pour amener de la sérénité là-dedans, garantir qu'on est dans la plaque et qu'on ne va pas tomber à côté en sortant le projet. Donner du sens en fait, de se dire voilà pourquoi on choisit de travailler sur ce sujet-là plutôt qu'un autre et ça c'est pas remis en question parce qu'il y a quelqu'un qui se roule par terre alors qu'il faut passer son sujet en priorité. pour moi, ça a été vraiment enfin, c'était, tout s'est éclairé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. J'ai souhaité pousser les choses un peu plus loin que ce qu'elles n'étaient. Donc, il y a eu des succès, il y a eu des échecs dans ce que moi j'ai mis en place alors que j'étais salarié. À un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on y mette plus de moyens. L'entreprise n'était pas forcément prête, et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y aller. Et donc, ça fait 4 ans que maintenant je propose mes services du coup à des différents types d'organisations, principalement des grosses organisations, parce que c'est ce que j'ai le plus connu. Mais plus récemment, j'avais aussi intégré avec des startups. Donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais les objectifs restent les mêmes. C'est amener une vision centrée utilisateur et par la pédagogie, par des outils et des méthodos et en s'appuyant sur les expertises des entreprises dans lesquelles j'interviens.
Donc, d'accord.
C'est la collaboration.
Ok, très bien. Effectivement, c'est complet. et qu'est-ce que le design représente pour toi aujourd'hui ?
Alors pour moi, le design, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, et c'est quelque chose dont je me suis emparé et qui me sert très souvent, pas que dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, c'est une capacité à se questionner quelque part à toujours être dans le challenge de « Ok, on a fait ça comme ça la fois passée, ça s'est plutôt pas mal déroulé, ou au contraire, ça s'est pas bien passé ». Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ? Être sans cesse dans le questionnement de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur, pour délivrer de la valeur. Et donc, ça peut être vraiment sous un angle, comme moi je l'envisage, de résolution de problèmes. Je rencontre une problématique ou un obstacle, et ça peut être encore une fois dans l'éducation des enfants, dans leur orientation, ou aussi... dans le fait de générer plus de business pour une entreprise. Et après, il peut y avoir aussi des choses qui sont beaucoup plus dans une forme d'expression artistique. C'est de pouvoir, au même titre que la musique, en fait, ou d'autres domaines, de pouvoir, en fait, quelque part, matérialiser des choses, mais pour faire passer un message. Moi, je l'envisage plutôt, en tout cas, personnellement, comme étant un moyen de résoudre en fait des problèmes.
D'accord, ok, très bien, merci. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder avec toi, c'est donc l'UX design dans les grandes entreprises. C'est ce que tu disais à l'instant, c'est un environnement que tu connais bien et depuis longtemps, parce que tu as travaillé dedans. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un petit peu de... C'est quoi la différence entre une grande entreprise, par exemple, et une TPE, PME ou une start-up ?
Alors, pour moi, ce qui caractérise, ce que moi j'entends par grande entreprise, c'est déjà la largeur de son organisation, de son organigramme. Ça veut dire, ça va être des structures où ça va des fois être un peu compliqué, en fait, de savoir qui fait quoi. Il y a potentiellement des gens qui vont avoir un rôle sans en avoir le mandat, c'est-à-dire... qui vont soit être au service client ou au service études, en fait, qui vont déjà endosser un petit peu ce rôle d'être au contact avec les utilisateurs, sans forcément qu'on les appelle UX designer. C'est aussi des structures dans lesquelles il y a une culture. Et donc, quand on parle d'accompagnement au changement, de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches, il y a forcément, c'est corrélé à embarquer en fait des humains dans le fait de changer tout ou partie en fait de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc par rapport à ça, ce qui est important d'intégrer dans les grandes entreprises, c'est que ces grandes entreprises, souvent elles ont des décennies voire des plusieurs centaines d'années d'existence. Et donc si elles existent encore aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné la recette a fonctionné. Peut-être que plus récemment le modèle s'érode un peu, voire ne fonctionne plus. Mais pour autant, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Souvent j'emploie cette expression là, c'est-à-dire que c'est important de faire preuve d'humilité et d'intégrer ce qui a fait le succès de cette entreprise jusque-là pour en extraire l'ADN qu'il ne faut certainement pas renier, parce que sinon, c'est quelque part singer les grands acteurs, notamment outre-Atlantique, et ce n'est jamais des bonnes recettes. C'est-à-dire, on peut s'en inspirer, mais copier en soi, ça n'a jamais été vraiment un critère de succès. Et du coup, plutôt s'approprier voilà qui on est. Et donc, on va s'inspirer et s'approprier en fait ces processus-là pour les faire nôtres et quelque part être capable de les restituer en fonction de qui on est. Donc voilà, c'est il y a un enjeu important en fait de parunier notre culture d'entreprise, intégrer l'ADN qui fait que les gens qui y sont jusque là, ils ont un savoir-faire, ils ont des compétences et même si on vient ajouter, augmenter leur capacité à faire ou faire différemment, néanmoins c'est toujours important en fait de repartir de ce qu'ils savent bien faire parce qu'il y a très certainement des choses à conserver, voire à renforcer et qui vont aussi nous faire grandir nous. Donc moi c'est comme ça que je caractérise vraiment ce que moi j'appelle en fait voilà les grosses organisations et donc c'est des choses où ça veut dire que il faut savoir être pédagogue, embarquer les gens, c'est-à-dire que c'est des structures dans lesquelles on n'est pas forcément toujours attendu. On arrive en fait à un moment donné et il y a des gens qui voient d'un œil plus ou moins bon en fait le fait que on mette le nez dans leurs affaires ou qu'on vienne amener une nouvelle manière de faire. Et donc c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans le conflit, mais pour autant bien comprendre en fait quelle est leur crainte pour mieux pouvoir les embarquer avec nous et du coup adapter aussi notre manière de faire.
Est-ce que tu penses que les grandes entreprises ou les grands groupes, le design est plus mature que dans d'autres univers professionnels?
Je pense que la dichotomie, ce serait trop caricatural de dire grandes entreprises égale plus mature, petit est moins mature, voire on pourrait même sous-entendre l'inverse en se disant voilà les startups elles intègrent dès le départ le design alors que les plus grosses structures qui l'ont pas intégré dès le départ, c'est peut-être plus compliqué. Je pense que c'est pas aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a des grosses structures qui à coup en fait de conviction et de motivation en fait ont su à un moment donné gravir les échelons de maturité et des petites structures qui pour plein de raisons n'ont pas en fait intégré et n'arrivent pas à décoller en fait des premiers stades en fait de maturité design. Donc c'est pas dans ce sens-là en fait que moi je le corrélerais. Ce qui peut peut-être être à vérifier, mais ce qui peut peut-être être intéressant à creuser, c'est le temps que ça va prendre en fait pour une structure de gravir ces échelons. Donc si on parle de maturité design, c'est souvent des échelles qu'on représente sur des niveaux qui sont en général de 0 à 5, 0 à 4. On pourra donner des références si tu le souhaites. Et donc, du coup, c'est peut-être la vélocité, la capacité à gravir ces échelons-là rapidement qui, du coup, va mettre un peu plus de temps dans des grosses structures parce que, encore une fois, y a plusieurs strates, les processus de décision sont potentiellement un peu plus longs, etc. Alors que sur des structures plus petites, on va être plus agile. Et donc, quelque part, une fois que l'intention est là, c'est peut-être on va peut-être avoir une vélocité qui va être plus importante.
D'accord, ok. Et comment tu mesures la maturité du design au sein d'une structure ?
En écoutant la suite de cette interview, Jérémy répond à cette dernière question. Il vous dira aussi comment faire quand on est le seul designer et il répondra à ces questions. Est-ce que l'ensemble de l'expérience doit reposer sur nos épaules ? Comment vendre ses projets design dans une entreprise ? Et il répondra bien sûr à d'autres questions avec beaucoup de bienveillance. Et en conclusion, il vous donnera de précieux conseils pour faire avancer votre carrière de designer. Donc pour écouter la suite de cette interview avec Jérémy et vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. À bientôt sur Design Plus. Salut!
Design.